Bonjour à tous. Nous allons continuer ce matin le message que nous avons commencé il y a 2 semaines sur l'annonce de l'Évangile. Je vous avais promis toute une série de messages sur l'annonce de l'Évangile et nous allons continuer ce matin. Et je rappelle bien entendu que j'ai à votre disposition tous les passages bibliques qui vont nous servir de référence, et je vous invite à les prendre si vous voulez pour vérifier tout ça par vous-même après, et pour aussi vous remettre dans ce message chez vous. Donc dans le message précédent, nous avons parlé d'annoncer l'Évangile à un monde qui est hostile à l'Évangile. Et nous avons vu en quoi ce monde est hostile à l'Évangile. Et il se trouve que le Seigneur nous a demandé, malgré tout, d'annoncer l'Évangile au monde entier, même si les gens sont hostiles. Et j'ai promis de répondre aujourd'hui à 2 questions qui étaient qui dans l'Église est concerné par cette mission d'annoncer l'Évangile au monde? Et la 2e question, c'était comment annoncer l'Évangile? Nous allons répondre à ces 2 questions ce matin. J'aimerais en ajouter 2. 2 autres questions, c'est à qui devons-nous annoncer l'Évangile et pourquoi est-il nécessaire d'annoncer l'Évangile? Et je vais commencer par répondre à cette dernière question. Pourquoi est-il nécessaire d'annoncer l'Évangile? L'Écriture nous dit dans la première lettre de Paul à Timothée au chapitre 2, j'aimerais lire les versets 3 et 4. Il est écrit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Voilà pourquoi Dieu nous demande d'annoncer l'Évangile, parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, que faut-il faire pour être sauvé? Évidemment, les Écritures nous donnent la réponse. Si nous allons dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 10, au verset 13, il est écrit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Voilà, donc pour être sauvé, il faut invoquer le nom du Seigneur. Et en continuant avec le verset 14, on pose la question, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Voilà, donc si Dieu veut que les hommes soient sauvés, il faut donc que nous prêchions donc la parole pour que les gens puissent croire et enfin, et après, invoquer le nom du Seigneur pour être sauvés. Donc la mission, elle est grande. C'est la grande mission que le Seigneur nous a confiée en tant que disciples. Et je rappelle cette mission que nous trouvons dans Marc, chapitre 16, versets 15 et 16. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Voilà donc la raison pour laquelle nous sommes appelés à annoncer l'Évangile. Mais qui dans l'Église est appelé à cela? Une fois, je parlais avec une sœur qui m'a dit que nous ne sommes pas tous concernés par cette mission, parce que dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12, il est écrit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Donc ma sœur m'a dit, tu vois bien que dans l'Église, il y a certaines personnes à qui cela est confié, ce sont les évangélistes. En effet, les évangélistes sont ceux qui, en général, sont reconnus pour ce ministère-là, ou beaucoup d'ailleurs le font à plein temps. Donc elle m'a dit, voilà, dans l'Église, ceux qui doivent annoncer l'Évangile. Mais pour savoir si c'est vraiment le cas, j'aimerais vous lire quelques... Il y a 2 histoires singulières que nous trouvons dans la Bible. J'aimerais y revenir. Il y a 2 personnages intéressants que, d'abord, nous allons trouver dans le livre de la Genèse. Chapitre 5, verset 24, il est écrit « Enoch marcha avec Dieu. puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et puis dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2, verset 11, il est question d'Élie et d'Élisée qui sont en train de marcher, et voilà ce qui se passe. Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un et l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Voilà, nous avons deux exemples comme ça de deux personnages qui ont été enlevés au ciel vivants, sans connaître la mort, directement au ciel. Dieu les a enlevés. Et pourquoi Dieu les a enlevés? Nous avons la réponse dans le livre des Hébreux, la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 5. Car c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Et avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Dieu l'avait enlevé parce que Dieu l'avait trouvé agréable. Alors, nous, quel est le témoignage que nous avons reçu en tant que disciples? Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous aussi, nous avons reçu ce témoignage. Nous sommes agréables à Dieu. Nous sommes même ses enfants. Alors, pourquoi sommes-nous encore gardés sur terre? Pourquoi n'avons-nous pas été enlevés comme Élie ou Enoch? Puisque nous avons déjà reçu le témoignage que nous sommes agréables, que nous sommes des enfants. Nous n'avons plus rien à faire sur terre, normalement. Mais l'apôtre Pierre nous donne la réponse. Et ce passage, je le trouve magnifique. C'est sa première lettre au chapitre 2, verset 9. Et quand on sait qu'on est enfant de Dieu, quand on lit ça, ça fait un bien immense. Car l'Esprit nous dit, par l'Écriture, par la main de Pierre, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » C'est extraordinaire. Mais le verset continue. « Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Nous sommes un peuple saint, une nation acquise, nous sommes un sacerdoce royal pour annoncer l'Évangile. Pour annoncer l'Évangile. Nous sommes gardés sur la terre pour ça, sinon nous aurions été enlevés, puisque nous avons déjà reçu le témoignage que nous sommes agréables à Dieu. Nous sommes gardés pour annoncer les vertus de celui qui nous a sauvés. Nous sommes tous concernés par cette mission. On va se demander, mais pourquoi nous? Dieu aurait pu choisir les anges. Les anges pourraient très bien faire cela. Mais on pourrait imaginer qu'ils le feraient mieux que nous. Mais c'est simplement parce que Dieu, dans son amour, veut nous associer à cette mission, à cette œuvre de salut. Dieu n'a pas besoin de nous. Nous sommes, comme dit Paul, des serviteurs inutiles. Mais Dieu veut nous associer à une œuvre aussi extraordinaire que l'œuvre du salut. Et c'est par amour qu'il nous associe à cela. C'est pour cela qu'il veut que nous le fassions, parce qu'il veut que nous participions à cette œuvre extraordinaire du salut des âmes. Et il parle même de récompense pour ceux qui vont participer à cela. Et l'apôtre Paul avait si bien compris cela qu'il écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, versets 16 et 17. « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai une récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. » Paul parle ici d'une récompense qu'il va recevoir parce qu'il annonce l'Évangile. Mais ce n'est pas ça, en fait, l'essentiel. Il parle aussi il dit « malheur à moi ». Non pas parce qu'on sera puni par Dieu si on n'annonce pas l'Évangile. Mais imaginez-nous, à la fin, qu'on se rende compte que des âmes sont perdues pour l'éternité parce que nous n'avons pas annoncé l'Évangile. Malheur à nous de ne pas avoir annoncé la possibilité du salut. C'est ça que Paul veut dire. Malheur à moi si, à la fin, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont perdus pour l'éternité, pour le châtiment éternel, parce que nous n'avons pas annoncé l'Évangile. Nous ne leur avons pas dit qu'il y avait une solution. Malheur à nous. Nous avons donc nous sentirons une part de responsabilité dans la condamnation éternelle des personnes. Donc, pour cela, ne serait-ce que pour cela, faisons notre mission et annonçons le salut éternel aux âmes perdues. Et que ce ne soit pas la récompense qui soit notre moteur, mais que nous pensions à cela. Nous sommes tous concernés par l'annonce de l'Évangile. Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si nous nous disons amis de Jésus, puisqu'il nous a commandé d'annoncer l'Évangile, nous annonçons l'Évangile. Si vraiment nous nous considérons comme ses amis. Il l'a dit dans Jean chapitre 14, verset 15. pardon, chapitre 15, verset 14. Parfois, nous prenons conscience que nous avons à annoncer l'évangile, mais nous avons des objections ou des excuses. Mais nous ne sommes pas les premiers. Quand Dieu a envoyé des personnes en mission, souvent, elles trouvaient aussi des excuses. Et nous allons prendre quelques exemples. Le grand Moïse, quand Dieu l'appelle. Allons dans le livre de l'Exode, chapitre 3, versets 9 et 10. Dieu dit, « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Que répond Moïse? Versets 11 et 12. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu lui dit, « Je serai avec toi. » Et Dieu expose la mission à Moïse clairement. Au chapitre 4, verset 1, Moïse répondit encore, « Voici, ils ne me croiront pas. » Et ils n'écouteront pas point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Or Dieu donne quelques signes à Moïse pour lui montrer qu'il ne sera pas tout seul, que Dieu va déployer sa puissance avec lui. Malgré cela, versets 10 à 13, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. » Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et le langage embarrassé. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Donc Moïse trouve toujours des excuses pour ne pas aller faire la mission. Et plus tard, nous allons voir aussi un autre cas, il s'agit de Gédéon. Quand Dieu l'envoie délivrer le peuple d'Israël, vous trouvez cela dans le livre des Juges, chapitre 6. Lisons les versets 14 à 16. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as, et tu délivres et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Moi, ma famille, est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Je serai avec toi. » Et tu battras Madian comme un seul homme. Là aussi, Gédéon trouve des excuses en disant, ma famille est la plus pauvre et je suis le plus petit. Alors, envoie quelqu'un d'autre. Mais Dieu dit non, je serai avec toi. Et j'aimerais vous donner un dernier exemple. Il s'agit du prophète Jérémie. Pareil, Dieu l'envoie. Dans le livre de Jérémie, nous allons lire au chapitre 1, versets 4 à 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc, nous voyons qu'à chaque fois que nous trouvons des excuses, Dieu dit, non, je serai avec toi, il a dit à Moïse. Il dit, je serai avec toi, je serai avec ta bouche. Il dit à Gédéon, je serai avec toi. Il dit à Jérémie, je suis avec toi. Toujours le même encouragement. Je suis avec toi, ne dis pas, je ne suis pas capable. Et Jésus dira exactement la même chose à ses disciples. Quand il les envoie, dans Matthieu chapitre 23, versets 19 à 20, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc c'est toujours le même encouragement. Dieu nous dit, n'ayez crainte, je suis avec vous. Voilà, donc nous sommes tous concernés et nos excuses, Dieu nous dit, ne craignez pas, je serai avec vous. Donc nous n'avons plus d'excuses, nous pouvons y aller. Mais à qui annoncer l'évangile? Dans le livre des Actes, au chapitre 1, verset 8, Jésus dit à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous voyons ici une progression. Jésus dit, « D'abord, vous serez mes témoins à Jérusalem. » Commencez d'abord par là. Ensuite, la Judée. Un peu plus loin, la Samarie. Et ensuite, le bout du monde. Nous ne sommes pas obligés d'aller au bout du monde pour annoncer l'évangile. Commençons toujours par Jérusalem, c'est-à-dire tout autour de nous. Notre Jérusalem, c'est quoi? C'est nos proches, c'est nos parents, c'est nos camarades de cours, ce sont nos voisins, nos collègues de travail. C'est Jérusalem. Donc ne cherchons pas forcément, les gens disent « Oh, mais je ne peux pas aller en mission en Thaïlande ». Non, le Seigneur nous demande de commencer par Jérusalem. Tout autour de nous, nous avons déjà de quoi faire. Nos proches. Ensuite, on verra si Dieu nous envoie plus loin. Maintenant, le plus important, c'est comment annoncer l'évangile. Nous avons pris conscience que nous sommes gardés sur terre pour ça et que nous avons à annoncer l'évangile autour de nous. Mais comment faire? Et Jésus nous donne une image. Quand il dit dans Matthieu 9, 37, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Quand il parle de moisson, en fait, c'est qu'il prend une image, c'est l'image de l'agriculteur ou du jardinier. En fait, il va nous donner une méthode, quelque part, en disant cela. C'est-à-dire que le jardinier, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare d'abord la terre, premièrement. Deuxièmement, il sème, et ensuite, il arrose. Donc, il faut que ce soit fait dans ce sens-là, pour que ça marche. Préparer la terre, pour nous, ça va consister en quoi? Déjà, prier pour nous-mêmes. Prier pour que Dieu dispose notre cœur à l'annonce de l'Évangile. Parce que ce n'est pas si simple. Mais nous pouvons déjà préparer la chose en priant pour que le Seigneur nous donne un cœur disposé pour cela, pour que Dieu brise par exemple notre timidité. On peut lui demander cela. C'est comme ça que je vais commencer par préparer la terre. Dans sa deuxième lettre à Timothée, l'apôtre Paul écrit, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Quand nous sommes sauvés, Dieu nous donne cet esprit-là. Si nous ne le sentons pas agir en nous, demandons à Dieu de faire agir cet esprit de force. Nous ne devons pas être timides dans l'annonce de l'Évangile. Dieu ne nous envoie pas sans nous équiper, donc il nous a donné un esprit de force. Mais si nous nous sentons toujours timides, la prière et demander à Dieu de briser cette timidité en nous afin que nous puissions aller au-devant des personnes. Dans la préparation de la terre aussi, il y a le fait de prier pour les occasions. Prier pour que Dieu nous donne des personnes à qui annoncer l'Évangile. Et on peut prier chez soi, évidemment, pour que le matin, on va prier, dire à Dieu, aujourd'hui, je veux que tu crées les opportunités pour que j'annonce l'Évangile. Et il est bon aussi de prier sur le lieu de la moisson, ou le lieu où on va vraiment agir. Moi, par exemple, quand je vais au travail le matin, je prie. Enfin, je prie avant, mais sur le lieu de travail, je prie. En fait, je m'inspire d'un passage qui se trouve dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 3, où Dieu fait une promesse. Il dit, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Et quand j'arrive au travail, je prie, je dis, « Ce lieu, Dieu me le donne, mes pieds ont foulé ce lieu, je prends autorité au nom de Jésus pour y annoncer l'Évangile. » Donc, quand j'arrive le matin, je commence d'abord par préparer le terrain. Spirituellement parlant, je prends autorité au nom de Jésus parce qu'il y a, comme dit la Bible, des forteresses spirituelles qui nous empêchent d'annoncer l'Évangile. Donc, le lieu où nous sommes, il peut y avoir des forteresses spirituelles. Et Paul nous dit, 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Nous avons un combat spirituel à faire lorsque nous allons sur l'Évangile. Il y a des forteresses à abattre. Donc c'est dans la prière. Et donc moi, quand j'arrive au travail le matin, ben je prie en prenant autorité contre tout esprit qui s'opposerait à ce que j'annonce l'évangile au travail. Voilà. Donc, en fait, je prépare le terrain. Et ensuite, il faut semer. Une fois que j'ai préparé mon terrain, en tant que jardinier, je vais semer. Et donc, je vais saisir les opportunités que Dieu va me donner pour annoncer l'évangile. Il ne faut pas hésiter à saisir les opportunités. Et pour ça, je pense qu'il est bon d'être sensible à l'esprit qui va nous donner des choses. Et spontanément, il y a des choses qui vont arriver. Et, je me souviens par exemple une fois d'une personne qui me donne son prénom. Il dit « Je m'appelle Michael ». Et je lui dis « Ah tiens, tu es comme Dieu ». Il me dit « Mais pourquoi tu me dis ça ?» Je dis « Bah, Michael, ça vient de l'hébreu, ça, c'est Michael, ça signifie « qui est comme Dieu ». Il me dit « Mais comment tu sais ça ?» Bah, je dis « Parce que je lis la Bible tous les jours ». Ah bon ? Et donc, j'ai commencé à lui parler de Dieu comme ça. Alors que bah, je ne sais pas pourquoi, comme ça, le Saint-Esprit me dit « Tiens, saisis son prénom pour commencer ». Et donc, il y a des opportunités comme ça que le Saint-Esprit nous donne. Et donc, il faut pas hésiter à les saisir. Et il y a quelque chose qui est bon aussi, c'est de prier pour nos proches. Ou au moins de proposer la prière. Et moi, au travail, quand des gens sont en souffrance, me parlent de leur souffrance, je leur propose toujours la prière. Et je leur demande, est-ce que je peux prier pour vous, pour cette telle situation? Même des gens qui disent qu'ils ne croient pas, mais jusqu'à présent, il y a une seule personne qui a refusé. Mais les gens acceptent toujours. Ils se disent, pourquoi pas? Mais je prie sincèrement. Je note leur nom dans mon agenda pour ne pas oublier et pour que la promesse que j'ai faite, je puisse la tenir. Et j'ai ici une anecdote. C'est une collègue à qui je parlais de l'Évangile. Et à un moment donné, elle me demande, mais qu'est-ce que ton Dieu peut faire pour moi? Et là, je réfléchis, je ne sais pas quoi lui dire. Et je lui dis, mais écoute, est-ce que tu veux, est-ce que tu as un sujet particulier pour que tu vois que Dieu agit? Donc elle réfléchit, je crois qu'elle a dû se dire, je vais trouver un truc bien, bien coriace. Et elle me dit, mon père et mon frère ne se parlent plus depuis des années. Et je désire tellement qu'ils se réconcilient. Est-ce que ton Dieu peut les réconcilier? Je lui ai dit tout de suite oui. Voilà. Et donc, j'ai mis ça en prière. Et quelques semaines après, elle m'appelle au loin. Eric, je lui ai dit, tu sais pas ce qui s'est passé? Mon père et mon frère se sont réconciliés. Je lui ai dit, maintenant, est-ce que tu crois en mon Dieu? Elle me dit, ah, si ça se trouve, ils devaient se réconcilier et tu as prié au même moment et par coïncidence, ils se sont réconciliés. Ça arrive. Dieu donne des signes, mais les gens peuvent être endurcis. Mais moi, j'ai fait ma part. Et c'est pas fini parce que cette personne, bien qu'elle est rejetée, je sais qu'au fond d'elle, elle sait que quelque chose se passe. Parce qu'actuellement, elle m'a appelé parce qu'elle a des problèmes avec son fils. Et voudrait que je prie. Alors qu'elle avait dit que c'était une coïncidence. Mais il faut pas que nous nous découragions. Surtout, proposons la prière aux gens. Ça ne coûte rien de proposer la prière. Et Dieu agit parce que Dieu veut honorer son nom. Et c'est là, ça favorise l'annonce de l'Évangile. Je pense que la meilleure façon d'annoncer l'Évangile, déjà, c'est notre attitude. Plus nous vivons l'Évangile, plus il est facile de l'annoncer. Et moi, je travaille dans un grand groupe où il y a énormément de... comment dire, c'est difficile. Tout le monde veut avoir de la promotion, donc on se marche dessus, on se fait beaucoup de mal. Et moi, je qualifie souvent notre lieu de travail comme un panier de crabes. On se pince beaucoup, ça fait très mal. Et les gens sont en souffrance. Beaucoup de gens sont en souffrance. Et, mais ils ne comprennent pas pourquoi je ne le suis pas. Et certains viennent me voir et me disent, mais comment tu fais, toi, pour rester si serein? Je n'hésite pas une seule seconde, je leur dis directement parce que je crois en Jésus. Je n'hésite pas sur le nom de Jésus. Et donc, les gens sont surpris. Ce nom, ça les fait bondir, mais ça les interpelle. Mais ils se disent, mais c'est pas possible. Mais comment ça se fait que toi, nous, on est en souffrance, tout le monde. Et toi, tu as l'air serein. Je dis, oh, mais parce que j'ai une autre espérance que vous. Parfois aussi, j'utilise ce nom, enfin, ce mot, espérance, c'est quoi? Bah oui, j'ai la vie éternelle. Quoi, mais qu'est-ce que tu... Et voilà. Et donc, je commence comme ça pour annoncer l'Évangile. Parce que j'ai une attitude qui les surprend. Notre attitude de chrétien doit déjà nous donner l'opportunité pour annoncer l'Évangile. Et aussi, je dirais, notre joie. Voilà, la joie. C'est-à-dire qu'il y a une joie profonde, même dans l'épreuve. Il y a cette sérénité derrière l'épreuve, derrière les choses difficiles. Les gens sentent qu'il y a quelque chose de joyeux en nous. Et n'hésitons pas à dire pourquoi. Et les chrétiens, les gens leur disent, mais ils n'osent pas dire que c'est Jésus qui le fait. Moi, je leur dis, c'est Jésus. Maintenant, et souvent, ça rend les gens curieux. Parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose. Donc, ils veulent savoir ce que c'est. Donc, et là, on peut annoncer l'évangile. À mon travail, j'ai des surnoms. Il y a des gens qui m'appellent Vitamine J. Parce que ils m'ont demandé ce que je prends. Et je leur dis, je prends de la vitamine. Ils me disent, mais laquelle? Je dis J. Ils disent, nous ne connaissons pas, on connaît la vitamine A, B, E, C, mais J, c'est quoi? J, c'est Jésus. Et donc, c'est comme ça, certains, quand ils me voient au loin, ils disent, vitamine J. Et d'autres m'appellent 200%. Pourquoi? Parce que ça, c'est surtout les musulmans. Les musulmans, quand je leur témoigne de l'évangile, je leur parle de mon assurance du salut. Et je leur dis que je suis sûr à 200% d'aller au paradis. Et ça, ça les sidère. Et donc, certains m'appellent 200%. Ils ne m'appellent plus par mon prénom. Mais ce sont des opportunités qui nous permettent d'annoncer l'évangile. Donc, comme ça, quand ils m'appellent 200%, donc c'est drôle. Mais après, il y a quelque chose de sérieux à dire derrière. Voilà. Et là, ça, c'est l'opportunité pour annoncer l'évangile. Moi, je considère que le lieu où Dieu nous a placé, notre Jérusalem, c'est vraiment un lieu où on a à travailler. Et souvent, moi, quand les gens partent, soit à la retraite, soit des gens qui finissent des missions chez nous, quand ils partent, on fait souvent un pot, et j'aime offrir un petit cadeau. Et c'est un livre d'évangélisation, je ne sais pas si certains le connaissent, il s'appelle « Rencontre avec un parfait inconnu ». Je trouve que c'est un livre qui se lit rapidement, qui annonce l'évangile de façon assez particulière, que je trouve bien. Et donc, je l'offre toujours à des gens qui partent. Et pas plus tard que la semaine dernière, il y a un collègue qui est parti, mais qui m'a invité chez lui, suite à ce livre que je lui ai donné. Il voulait en savoir plus, parce qu'il était interpellé par... Parce que le livre, à la fin, en fait, le livre parle de toutes les religions, et à la fin, finit par Jésus. Et il a dit, j'ai envie que tu me parles de ce Jésus. Et donc, je suis allé chez lui, j'ai passé des heures, je pensais aller passer une demi-heure, et puis finalement, ça a duré des heures où je lui ai donné tout mon témoignage, je lui ai parlé de l'évangile en long et en large. Mais donc, ce sont des opportunités comme ça qu'on peut avoir quand les gens partent. Moi, je profite toujours de l'occasion du départ, où on fait un pot, tout le monde se réjouit, et on fait des petits cadeaux. Et récemment, il y a une personne aussi, une intérimaire, qui est partie de chez nous, à qui j'avais déjà parlé de l'évangile, elle est musulmane. Et quand elle est partie, je partais en Martinique et je lui ai dit que j'allais lui ramener un cadeau. Et donc je suis revenu avec de la confiture de goyave, je crois. Et bon, parce qu'on n'en trouve pas ici. Et avant de partir, donc je lui ai fait un petit paquet cadeau. Dedans, il y avait donc la confiture, un évangile et j'ai un petit traité que je donne aux musulmans. J'avais mis ça dedans. Ça s'appelle Coran et Salut. C'est un traité dans lequel il y a certains parlent du fait que le Coran dit bien qu'on ne peut pas être sûr de son salut. Et le Coran invite aussi à lire l'Évangile et la Torah. Et donc, je leur rappelle ces versets du Coran dedans. Et donc, j'avais préparé mon petit cadeau avec la confiture. Et donc, je lui ai dit, voici le cadeau, je vais te donner de la nourriture. Deux sortes de nourriture, donc physique et spirituelle. Elle l'a ouvert, elle a dit, ah oui, mais je veux lire ton Évangile. Je veux lire ton Évangile. Et était émue, elle a été même émue, mais voilà, c'était une opportunité pour lui présenter, enfin, pour lui annoncer l'évangile et l'encourager à aller plus loin par rapport à ce que je lui avais dit avant qu'elle parte. Voilà. Donc saisissons toutes les opportunités pour annoncer l'évangile. Autour de nous, on peut rencontrer des musulmans, et souvent, le point important pour les musulmans, à une époque, j'ai été sympathisant musulman il y a longtemps, et ce qui est important pour un musulman, c'est l'assurance du salut. Le musulman est dans une angoisse terrible parce que le Coran dit que personne ne peut être sûr d'être sauvé, même le prophète, disent-ils. Et donc, dans ce traité aussi, je rappelle ces versets où le prophète lui-même dit « Je ne sais pas ce qu'on fera de moi, ni de ce qu'on fera de ceux qui me suivront. » Donc, je leur rappelle ces versets. Donc, les musulmans sont dans une angoisse terrible. Et quand je leur annonce l'évangile, je ne fais pas de débat théologique. Cela ne m'intéresse pas. S'ils veulent me parler de certaines contradictions dans la Bible, je ne veux pas en parler, je leur dis simplement que je suis sûr d'aller au paradis. Et c'est là le point important. Et je pense que ce soit les musulmans ou les autres religions, quand on veut parler de l'évangile, il faut éviter les débats théologiques et parler de l'assurance du salut. C'est la particularité du christianisme, c'est que nous sommes sûrs d'être sauvés. C'est la seule religion qui propose cela. Et donc, c'est le point d'accroche. Et c'est ce que les autres veulent, être sûrs. Donc, il faut surtout témoigner de cela, de l'assurance de notre salut, et de témoigner simplement de ce que Dieu a fait dans notre vie et ce qu'il continue de faire. Et voilà, c'est tout ce qu'on nous demande. Nous n'avons pas besoin de maîtriser la Bible ou d'avoir des diplômes en théologie. Simplement témoigner de notre assurance du salut. Parce que l'objectif n'est pas du tout de convaincre. Il faut que nous enlevions ça de notre tête. Il ne s'agit en aucun cas de convaincre les gens. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Jésus dit, n'insistez pas. Vous annoncez l'évangile, vous vous arrêtez là. Si les gens veulent en savoir plus, d'accord. Mais s'ils ne veulent pas, vous partez. Le but n'est pas du tout de convaincre. Et ça a rendu, comment dire, il y a une méprise par rapport à ça qui a rendu certains chrétiens frustrés, malheureux, parce qu'ils n'arrivaient pas à convaincre. Mais ce n'est pas notre rôle. Si nous voulons convaincre, nous prenons le rôle de Dieu. Nous prenons la place de Dieu. Dieu seul peut convaincre. Nous annonçons l'évangile. Rappelez-vous dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 et 7. Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est ni celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Dieu seul est maître dans tout cela. Nous sommes que des serviteurs inutiles et nous n'avons pas à convaincre. Dieu seul fait croître. C'est-à-dire que ce que nous avons planté dans les cœurs, Dieu va convaincre les gens de cela. Mais ce n'est pas à nous de le faire. Sinon, nous prenons la place de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a son rôle à jouer. Et on voit ici l'expression « Apollos a arrosé ». Nous pouvons aussi voir une autre image pour nous. Arroser, c'est prier pour les personnes. Une fois que nous avons annoncé l'évangile, sans chercher à convaincre, nous pouvons passer du temps ensuite, chez nous, à prier pour que Dieu ouvre les cœurs, que les gens acceptent l'évangile. Parce que l'évangile, au fond, de par notre nature pécheresse, l'évangile est voilé. L'évangile est voilé, c'est ce que Jésus dit, Matthieu 13, 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et Paul va aller dans ce sens-là, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. A priori, l'évangile est voilé pour toute personne. Mais c'est Dieu qui ouvre le cœur. Et dans nos prières, quand nous arrosons donc ce que nous avons semé, c'est demander à Dieu d'ouvrir les yeux spirituels, l'intelligence spirituelle pour que les gens comprennent. Et dans Luc chapitre 24, verset 45, il est écrit « Alors Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » Si Dieu ne nous ouvre pas l'esprit, nous ne comprenons rien. Il faut que Dieu ouvre l'esprit des personnes. C'est pour ça que nous prions. Et nous voyons un autre exemple aussi, quand Paul annonçait l'évangile dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Donc c'est Dieu qui ouvre les cœurs, qui ouvre l'esprit, qui ouvre l'intelligence. Donc si nous voulons que les gens comprennent l'évangile, il faut que nous prions pour ces personnes-là, pour que Dieu ouvre les cœurs. C'est ça, notre façon d'arroser. Nous avons planté une graine, la parole de Dieu dans leur cœur, le témoignage de Dieu, et ensuite, nous arrosons, et après, c'est Dieu qui va faire croître. Alors, pour conclure sur tout ce que je viens de dire, j'aimerais simplement rappeler, synthétiser tout ce que nous avons dit sur le fait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, pas que nous. Mais Dieu veut vraiment que tous les hommes soient sauvés, mais il faut que ces personnes invoquent le nom du Seigneur pour être sauvés. Et pour qu'ils invoquent le nom du Seigneur, il faut qu'ils croient au Seigneur. Et pour croire, il faut qu'ils aient entendu parler de ce Seigneur. Et c'est pour ça que nous devons prêcher l'Évangile. C'est la grande mission que le Seigneur a confiée à son Église. C'est vraiment la grande mission. Et nous sommes gardés sur terre pour ça. Sinon, je pense que nous aurions été enlevés, comme ceux que Dieu a trouvés agréables déjà. Mais Dieu veut que nous restions pour annoncer ses vertus. Et nous sommes tous concernés. Il faut que nous en soyons convaincus. Nous sommes tous concernés d'une façon ou d'une autre. Nous n'avons pas besoin d'aller dans des stades pour annoncer l'évangile. Mais c'est juste autour de nous, Parce que Dieu, dans son amour, veut nous associer à cette œuvre extraordinaire du salut. C'est par amour et par grâce. Et en plus, il nous promet une récompense si nous faisons bien notre travail. Et donc, commençons petitement avec nos proches, nos voisins, nos amis. Juste des petits témoignages. Préparons le terrain, comme j'ai dit, en priant d'abord pour nous, en priant pour les personnes, enfin pour les occasions que Dieu puisse préparer les occasions pour que nous puissions annoncer l'Évangile. Ensuite, semons, une fois que la terre est préparée, en saisissant les opportunités, aussi petites soient-elles. Voilà, toutes les occasions qui se présentent, sans jamais chercher à convaincre. Juste témoigner. Et si les personnes veulent en savoir plus, ben à ce moment-là, on peut aller plus loin. Et ensuite, arrosons ce que nous avons semé en priant. Vraiment, soyons en prière pour les gens à qui nous annonçons l'Évangile. Et rappelez-vous, si nous avons des craintes, que Jésus nous a fait une promesse. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voilà. Et je vous donne un dernier encouragement, et c'est Dieu qui vous le donne. C'est celui qui l'a donné à Gédéon. Va avec la force que tu as. Amen.